On avait commencé avec le premier chapitre où Zacharie essayait d'encourager les Juifs qui rentraient de l'exil parce qu'ils voulaient reconstruire leur cité qui était en ruine, ils voulaient reconstruire le mur. Et en fait, Zacharie voulait les encourager à le faire. Et il leur annonce en fait que Dieu va les aider, qu'ils vont rebâtir, que Jérusalem va devenir une ville fantastique. Et nous allons le voir encore aujourd'hui. Il y a donc le futur qui permet, l'assurance d'un futur glorieux qui permet à ce peuple bien mal en point de continuer, de persévérer. Et nous aussi, nous avons aussi besoin d'encouragement, nous avons besoin de savoir qu'il y a une fin heureuse, une fin grandiose, pour nous permettre de persévérer au jour le jour. Donc on va, avant de commencer à regarder ce chapitre plus en détail, on va prier et remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce qu'elle demeure. Elle résiste, elle persiste. Elle endure les aléas de l'histoire, les aléas de nos vies. Et sur elle, on peut se fonder, on peut fonder nos vies, Seigneur. Merci pour cette précieuse parole. Aide-nous à toujours avoir davantage soif d'elle. Tu nous as dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais qu'il vivrait de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et Seigneur, nous voulons vraiment obéir à cette injonction de nous réjouir, de connaître, de chercher à connaître ta parole, de la lire, de la comprendre avec l'aide de ton esprit et peut-être d'autres commentateurs ou autres hommes. Et même entre nous, d'en parler, surtout la mettre dans nos cœurs, qu'elle soit mémorisée. Et encore plus, Seigneur, on sait que la meilleure façon de mémoriser les choses, c'est de les mettre en pratique. Donc Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique pour qu'elle nous transforme, qu'elle fasse de ton Église ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une lumière parmi les nations, Seigneur. Aide-nous à briller pour toi, à être tes ambassadeurs. Aide-nous à vivre d'une façon sainte, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, dans nos cœurs et dans cette assemblée, dans cette ville, dans ce pays, Seigneur, de par le monde. Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous si vous essayez, vous arrivez. Si vous avez lu le chapitre 14, c'est un peu l'apogée de Zacharie. Ça commence dans le retour d'exil et ça finit dans le millénium, dans le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Ce chapitre est rempli de prophéties. Et c'est vrai que quand on lit ça sans avoir une bonne connaissance de tout l'Ancien Testament et même du Nouveau, encore une fois, il faut lire de la Genèse à l'Apocalypse. L'Apocalypse reprend beaucoup des thèmes qui sont abordés ici. Il y a même des citations qui viennent d'ici, dans l'Apocalypse. Et le problème, c'est de savoir, quand on lit ça tout seul, est-ce qu'on prend ça à la lettre ou bien on pense que c'est un peu du langage figuré, du langage poétique? Et c'est un passage qui n'est pas facile. Et même quelqu'un de solide comme Luther, qui est à l'origine de la réforme, retour à la parole de Dieu et abandon des traditions ecclésiales, il disait lui-même, J'abandonne parce que je ne suis pas certain de ce dont parle le prophète. Pourquoi ? Parce que il voulait approcher ce chapitre d'une façon figurative, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas à la lettre ce qui était dit dedans, et il essayait d'interpréter ça en disant ça veut dire voilà, c'est plus l'histoire, le sens de l'histoire, mais il ne cherchait pas à voir exactement ce qui était dit. Et c'est toujours une mauvaise façon de lire la Bible. Il y a des passages qui sont à prendre d'une façon figurative, c'est-à-dire comme illustration de vérité plus profonde, mais c'est toujours la parole même qui doit nous dicter la façon de lire les choses. Et si il n'y a pas d'indication que c'est à prendre au figuré, les événements qui sont décrits, les événements qui nous sont racontés, la meilleure façon, c'est toujours de les prendre à la lettre. Et ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. C'est dans certaines églises ou dans certains mouvements chrétiens, on a tendance à faire des allégories, de dire oui, c'est une façon de parler d'autres réalités spirituelles plus profondes. Non, c'est bien, s'il n'y a rien qui le précise le contraire, de dire voilà, ce sont des faits qui sont décrits, des choses qui vont se passer et qui vont arriver vraiment. Et donc la tendance, pour ceux qui prennent ça au figuratif, c'est de dire, bon, ben, il va y avoir la prise de Jérusalem dans les années 70, en l'an 70 de notre ère, par les Romains et d'autres nations, et c'est là qu'il s'agit de cela seulement. L'Église catholique, par exemple, ne croit pas qu'il y aura un retour, qu'il n'y aura pas un royaume établi de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle l'amillénialisme, a millénium, pas de millénium. Et quand on essaye d'aller du côté de l'interprétation figurative, on se perd complètement. Et même des gens qui peuvent être de très bons commentateurs, s'ils approchent le texte de cette façon, ils aboutissent à rien. Et Luther avait le mérite de dire qu'il ne comprenait pas. Par contre, il y a un autre exemple, c'était en 1919, un commentateur qui s'appelait David Baron, qui a écrit un très bon commentaire sur le livre de Zacharie, et il a écrit ça en 1919. Et en prenant les choses à la lettre, il s'est dit, il va falloir supposer la restauration des Juifs dans une condition de non-croyance, mais il va falloir qu'ils aient un territoire. Et cette restauration devra se passer avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il avait donc en fait prévu littéralement un retour des Juifs dans leur terre, ce qui s'est passé en 1948. Et il avait même précisé que ce serait peut-être un retour d'un État juif qui serait fondé sous l'égide d'une organisation internationale. Et tout ça, il le voyait à partir des prophéties qu'il prenait à la lettre. Et en fait, c'est surprenant, et ce n'est pas notre point ce matin, mais il continuait en disant qu'après un moment de prospérité, il y aura une nuit d'angoisse, la rejection de Christ, et puis il y aurait le rassemblement des nations pour assiéger Jérusalem, comme c'est décrit dans le chapitre 14. Et ce qui est formidable, c'est de réaliser qu'en prenant à la lettre les prophéties, cet homme s'est dit, il y a des choses qui doivent arriver, et ces choses sont arrivés ou sont en passe d'arriver. Donc c'est juste un encouragement à ne pas opter pour la vision figurée d'abord, comme on pourrait avoir tendance à le faire quand on ne comprend pas les choses, ou qu'on se dit c'est pas possible, Jérusalem, les Juifs sont dispersés de par le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une attaque de Jérusalem où le Seigneur viendrait les défendre? Ça ne tient pas debout. Voilà, donc ça c'est... Et les Juifs maintenant c'est une portion, et l'État d'Israël n'est pas un État chrétien qui ne croit pas, ils attendent, pour certains ils sont complètement coupés de toute religion, de foi. Pour d'autres, ils attendent encore le retour de leur Messie sans savoir qu'il est déjà revenu et qu'il va revenir. Et voilà, donc aujourd'hui, on va lire ensemble. Et on va peut-être commenter au fur et à mesure, parce que sinon, on va peut-être se perdre un peu. Mais juste avant, c'est ce chapitre 14, c'est le chapitre du jour du Seigneur. C'est un thème qui revient dans ce passage. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel. Et puis plus loin, il y a plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 références à ce jour-là, parlant de ce jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, on y a déjà fait allusion, ce n'est pas une journée de 24 heures, c'est une période de temps. Une période de temps où le Seigneur va imposer sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait dire que c'est le temps de l'homme. Le temps de l'homme qui, pour la plupart, les hommes qui, pour la plupart, ont rejeté Dieu. Mais le jour de l'Éternel, c'est un jour où le Seigneur amène le jugement sur les incroyants, les méchants, comme dit la Bible, et le salut à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui sont fidèles. Et il y a plusieurs façons de voir les choses à la fin des temps, et là, on n'a pas le temps de voir tout. Toutes les options, de voir tous les éléments qui permettent de juger d'une façon ou d'une autre. Mais brièvement, pour nous, nous sommes des tenants de la vision d'un enlèvement de l'Église avant le millénaire, avant la grande tribulation d'abord. On est des pré-tribes, pré-tribulationnistes. Et puis, après ça, le règne de 1000 ans de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et puis, à la fin de ces 1000 ans, l'arrivée d'un nouveau ciel, nouvelle terre, la partie éternelle de l'histoire humaine avec Dieu. Et on se base sur la prophétie de Daniel, notamment de Daniel 9, et puis des passages de Matthieu 24, et puis de l'Apocalypse, pour établir ce schéma. Il est bon de savoir qu'il y a des personnes dignes de foi, dans le sens où ce sont des chrétiens sérieux qui cherchent vraiment à comprendre la vérité, et qui... sur la base de versets qu'ils interprètent d'une certaine façon, où l'ensemble ont des visions différentes. Certains pensent que l'Église doit passer par cette période de 7 ans qu'on appelle la Grande Tribulation, alors que pour moi, il y a des versets clairement explicites qui nous disent que l'Église va être enlevée avant cette période de la terrible tribulation. Et encore une fois, c'est un temps de jugement de Dieu. On a notamment dans l'Apocalypse, au verset 10, il parle à une église, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » C'est un des nombreux versets qui soutiennent la vision d'un enlèvement de l'Église avant la tribulation. Et pour situer les choses ici, on est toujours dans ce que Jérémie 30 appelle le temps d'angoisse pour Jacob. C'est-à-dire que quand on commence, on a déjà vu, Tonio a couvert les chapitres 12 et 13, et on a vu qu'il y avait un siège qui se préparait autour de Jérusalem. Et quand on arrive au début du chapitre 14, on est en plein dans le siège de ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Armageddon, ça veut simplement dire la colline de Megiddo. Megiddo est une ville de la plaine de Jézréel, une grande plaine que l'on peut visiter aujourd'hui encore. C'est un territoire où il y a eu de nombreuses batailles dans l'histoire, en commençant dans l'Antiquité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc cette fameuse bataille d'Armageddon. Et au début, ça se passe mal. Ce siège se passe très mal pour les Juifs. Jérémie 39 parle d'un temps d'angoisse pour Jacob. Et notre vision, encore une fois, donc c'est à tout moment, l'enlèvement de l'Église pourrait se passer. Tous les éléments sont réunis, il n'y a pas besoin d'attendre un événement. Et ça doit nous conduire à vivre d'une façon sainte, être toujours prêt à ce qu'on soit appelé par Dieu à venir avec lui. Ensuite, une fois que l'Église est partie, la grande tribulation qui arrive sur la terre. Au début, on a un homme qui s'appelle l'Antéchrist, qui se fait passer en quelque sorte pour Christ, qui va être un homme plein de charisme, qui va sembler être un homme providentiel. On y revient, les hommes providentiels. On a toujours besoin d'un homme providentiel, parce qu'on a cette aspiration au vrai homme providentiel qui est Jésus-Christ. Mais on met nos espoirs sur un homme politique, sur un roi, sur quelque chose. On est toujours déçu, tant qu'on n'attend pas. Et la première moitié de ces 7 ans, cet homme va régler les problèmes de la planète. Et c'est vrai que on a tous nos idées pour régler les problèmes de la planète. Une des solutions que j'aimais bien, c'était d'avoir un salaire automatique sans rien faire. Et puis après, on peut s'occuper. Ça, je trouve ça génial comme solution. Réaliste, à vous de juger. Et cet homme-là va arriver avec des solutions qui vont vraiment impressionner les contemporains de cette époque-là. Et donc, au milieu de cette grande tribulation, il va révéler son vrai visage en se faisant adorer dans le temple de Jérusalem. Ça, c'était quelque chose qui avait été prophétisé historiquement par un dénommé Épiphane, qui après le roi Alexandre, l'empereur Alexandre le Grand, c'était un de ses héritiers, il avait pris le pouvoir et lui aussi avait même mis des porcs dans le temple de Jérusalem. Il avait désacralisé le temple, il se moquait, et l'Antéchrist, en se faisant adorer, va faire cela. Et c'est là que les choses vont se déchaîner sur l'humanité. C'est là qu'on lit dans l'Apocalypse toutes les destructions qui vont se passer, les pollutions, les maladies, toutes ces choses-là. Et puis à la fin de cette période, c'est le retour de Christ avec ses saints. Alors, ce n'est pas seulement les saints qui ont un halo autour de la tête. Les saints, c'est vous et moi, tous les croyants de l'histoire qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour être acceptés par Dieu, qui ont pris à la lettre le sacrifice qu'il a accompli sur la croix et qui ont dit « Oui, je reçois ce don, de ce pardon que tu m'offres, Jésus-Christ, par ton sacrifice. » Et quand Jésus revient avec ses saints sur la planète, c'est cette fameuse bataille d'Armageddon qui va déboucher sur le millénium dont on va parler. Je vous ai dit que ça commençait mal pour les Juifs. Ils étaient en passe de tout perdre. Versets 1 et 2, Jérusalem est assiégée. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Les armées qui assiègent et qui attaquent Jérusalem sont si tranquilles qu'elles sont invincibles qu'elles partagent le butin dans la ville même. Normalement, quand des troupes attaquent un pays étranger ou une ville qu'ils l'assiègent, ils prennent le butin et ils vont partager les choses en dehors de la ville. C'est un peu comme si des cambrioleurs d'une banque, au lieu de filer en vitesse après l'attaque et l'ouverture des coffres, remplir les sacs qu'ils avaient de billets de banque, c'est comme si là, ils s'asseyaient tranquillement en disant « Bon, on est combien ? 5 ? Tu comptes, toi ? Et on va partager tranquillement, prenant l'apéro, sûr de leur fête, parce qu'ils savent que les policiers ne vont pas oser les attaquer ou tirer dessus. » Et ça veut dire qu'ils étaient vraiment en confiance. Et on voit que c'est Dieu qui dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Alors là, on se dit qu'il y a un problème là. C'est Dieu qui attaque Jérusalem. En fait, les nations sont en colère. Elles rugissent contre Dieu, elles rejettent Dieu. Mais en fait, elles se font utiliser par Dieu. C'est quelque chose qu'il est bon de se rappeler, c'est que Dieu contrôle les choses en dernier ressort. Il peut nous sembler des fois qu'on est sous la coupe d'un mauvais patron, d'une injustice, d'une trahison, d'une maladie, de choses comme ça. Dieu, si ce n'est pas lui qui organise, il permet les choses avec une bonne fin en vue. Et en fait, il utilise cette attaque sur la ville pour faire un peu le tri. Ceux qui ne sont pas, qui ne se tournent pas vers lui, qui n'ont pas confiance en lui, eux, ils vont partir. Le reste du peuple, la moitié de la ville partira en exil. Et il se passe donc des choses terribles. Elles attaquent Jérusalem, la ville est prise, les maisons sont pillées, les femmes sont violées. Ce sont des choses il était question au chapitre 13, verset 8. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les deux tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Alors on se dit, mais là il y a un problème d'arithmétique, hein. On nous dit la moitié, là on nous dit un tiers. En fait, c'est deux événements qui étaient différents. Mais c'est là que le terrain est prêt pour le Seigneur d'arriver. Quand vous lisez votre Bible, et je vous encourage encore cette année à la lire tout entière, on a en ligne un programme qui vous permet d'écouter et de lire en même temps. Si vous allez sur Calvary Chapel, il devrait y avoir une référence à ça. Et vous pouvez toujours remarquer les mais de Dieu, Amaïs. Au mois de mai, on va fêter les mais de Nice, Mais les mets de Dieu, quand tout semble terrible, perdu d'avance, il y a toujours un mais. Il y avait « mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville ». Ah ! On pensait que c'était le sac complet de la ville. Et là, il est dit « l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille ». L'Éternel est souvent appelé, on l'a vu dans ce livre de Zacharie, dans cette prophétie de Zacharie, le Dieu des armées ou le Dieu des multitudes. Il a des troupes incroyablement puissantes, des anges, des légions d'anges que Jésus aurait pu appeler pour ne pas aller à la croix. Il est tout puissant et il est un Dieu de bataille. L'histoire de la Bible, en fait, c'est on voit combien de fois c'est Dieu qui se bat pour son peuple. Nous, des fois, on aimerait bien prendre les choses en main en pensant que Dieu ne sait pas comment faire. On voit des systèmes politiques, des décisions morales qui deviennent des lois qui nous semblent complètement et qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Et on se dit Dieu est en train de perdre la partie. C'est intéressant, il y a quelques années, on avait participé à des sittings sur les marches du palais de justice à Nice pour protester contre le projet du mariage pour tous, sauf pour Hollande, bien sûr, qui ne s'est jamais marié, qui ne voulait jamais se marier, mais on imposait le mariage à tous, et notamment le mariage entre personnes du même sexe. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a une grille qui ferme les escaliers. Il n'y aura plus de sitting possible. Mais ça, c'est un détail. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Après la description du siège de Jérusalem, c'est en fait la lutte finale de l'humanité païenne. Ils peuvent chanter « C'est la lutte finale » parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Contre Israël qui croit dans son Messie, la moitié qui ne sera pas éliminée de la ville. L'Éternel, il est dit, et là c'est encore quelque chose d'imparable, vous tombez sur les sectes qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est un passage clé, vous pouvez le sortir avec vos amis témoins de Jéhovah. Je dis amis parce que vous devez les aimer vers le Seigneur, non pas les haïr parce qu'ils sont dans l'erreur. L'Éternel sortira, c'est le mot Yéhovah dont ils se veulent les témoins. Et tout de suite après, ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Les pieds de l'Éternel, ce sont les pieds de qui ? Ce sont les pieds de Jésus. Jésus est l'Éternel. Alléluia. Notez ça, c'est bien si vous avez quelques petits passages comme ça, quand je mentionne des passages, notez ça dans votre Bible, quand vous êtes attaqué par des témoins de Jéhovah, si vous commencez à leur parler, déstabilisez-les en leur montrant ces choses qui montrent qu'ils sont dans l'erreur. Avec amour, pas pour les humilier, mais pour leur dire « je comprends mal » parce qu'il me semble ici qu'il est très clair que l'Éternel, c'est aussi Jésus. Ses pieds se posant là, sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est pas très, très haut, en fait, c'est plus une colline des Oliviers, mais il est dit que le mont des Oliviers va se fendre par le milieu. Vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est là que ça s'est indiqué. D'est en ouest, une très grande vallée se formera et une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Ce mont des Oliviers, qui est à l'est de Jérusalem, c'est comme une barrière si jamais les habitants voulaient s'enfuir, mais là le mont va être fendu en deux. il va y avoir un tremblement de terre. Ça aussi, souvent, Dieu s'annonce en faisant trembler la terre. Et c'est impressionnant parce qu'il va se former une vallée, la vallée de mes montagnes. Elle s'étendra jusqu'à Hatzel, c'est une bourgade dont on n'est pas sûr exactement de l'emplacement. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Ozias sur Juda. Et il est dit, l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. C'est le retour de Jésus-Christ sur la terre avec tous les saints de l'histoire. Et donc, on peut l'espérer, si nous appartenons à Christ, nous serons du voyage. On aimerait vous emmener à Jérusalem, faire un voyage en Jérusalem, en Israël, faire un voyage. On avait essayé il y a quelques années. On va sans doute faire des projets pour faire ça, peut-être pas l'an prochain, mais en 2020, pour vous donner le temps d'économiser, de préparer. Maintenant, on peut partir pour pas cher directement à Tel Aviv, Nice-Tel Aviv. Il y a des vols low cost. Donc vous pouvez y aller même sans qu'on soit tous ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose de formidable que de voir les lieux dont on parle, si on est chrétien, si on étudie la Bible, de voir enfin ces lieux, de voir un peu de ressentir la géographie. C'est une chose de regarder une carte, c'est une autre chose que de se voir dans les lieux même avec les différents panoramas, le mont des Oliviers. Et cela, c'est donc l'instauration. La bataille d'Armageddon va être gagnée. Et il est dit, ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Là, on voit comment le règne du Messie va changer la terre. Combien le peuple de Dieu va être béni après cette délivrance par le Messie. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Là, certains pensent qu'il s'agit des lumières que nous suivons, les repères que nous nous donnons dans notre vie, qui sont en dehors de Dieu. Mais c'est aussi le fait que ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, il y aura de la lumière. La lumière de Dieu va nous suffire. On a dit que l'énergie du soleil, la lumière du soleil, est quelque chose de fantastique. Mais c'est une petite goutte d'eau par rapport à l'énergie, à la lumière de Dieu. Et je vous rappelle que on a fait le calcul que l'énergie solaire qui est reçue par la Terre en un laps de 3 minutes pourrait remplacer toutes les sources d'énergie que la Terre dépense en un an. Vive l'énergie solaire. Je vous encourage à mettre des panneaux sur vos toits. Ça, c'est logique. Et là, ce sera la lumière de Dieu qui éclairera. C'est aussi dans l'Apocalypse, il est question qu'il n'y aura pas de soleil, pas de lune, que ce sera la lumière de Dieu qui éclairera la Jérusalem céleste. Ce jour-là, à chaque fois, vous remarquerez, ses pieds, verset 4, ses pieds se poseront ce jour-là, verset 6, ce jour-là, verset 7, ce sera un jour unique, verset 8, ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera une moitié vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver, c'est-à-dire tout le temps. Il y aura un flot ininterrompu d'eau vive. Et le mot qui est utilisé, c'est pour de l'eau qui fraîche, d'une source qui bouillonne, qui jaillit, qui est pure. On sait aussi que c'est Jésus dans Jean 7, dit que de nos cœurs sortira de l'eau qui désaltérera ceux qui sont autour de nous, l'eau de l'Esprit Saint. Et donc, un tremblement de terre, le mont des Oliviers qui s'ouvre en deux, une vallée qui s'ouvre, et de l'eau sortira de Jérusalem. Jérusalem, c'est intéressant, c'est une des grandes villes de l'Antiquité qui n'a pas été construite près d'une rivière. La plupart des endroits, on se met soit sur l'eau, ou les ports, soit dans un endroit où il y a de l'eau qui arrive, des grands fleuves. L'Éternel, ce roi, et juste une référence aussi, si vous voulez entendre parler de cette rivière, c'est dans Ézéchiel 47. Ézéchiel voit une rivière qui descend du trône de Dieu vers la mer morte, qui amène la vie et la vitalité partout. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, encore cette expression, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ce sera la fin des partis politiques, des collectifs, des royautés, des philosophes, des ismes. Ah, ça sera reposant de plus avoir à être sollicité de toutes parts juste par celui qui est la vérité lui-même. On soufflera un grand coup. Son nom sera le seul nom. Acte 4 nous dit, il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes que le nom de Jésus par lequel nous devons être sauvés. Et puis, des phénomènes géologiques, tout le pays se transformera en plaine de Geba à Rimmon au sud de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte des angles et de la tour de Hananéel, jusqu'au pressoir du roi. Apparemment, il n'y aura plus besoin de montagnes, de collines pour se protéger, et toutes ces montagnes se mettront au même niveau de plaine. Il ne restera plus que Jérusalem qui restera à sa place, qui sera élevé. Et donc, dans un pays plat, on verra Jérusalem qui apparaîtra. C'est presque une préfiguration de la Jérusalem céleste qui va descendre des cieux comme une pierre précieuse, avec beaucoup de pierres précieuses. Alors là, il y a des détails, on passe sur la géographie ou la topographie de Jérusalem. Mais c'est intéressant lorsqu'on visite Jérusalem aussi de voir ces endroits ou d'essayer de voir où ils se seraient situés s'ils ne sont plus là. Il y a les pressoirs du roi, je ne sais pas exactement où ça se trouve. Mais tout ça, c'est pour dire que ce n'est pas des jolies allégories, c'est bien des faits précis. Et même si on a du mal à les croire, comment les montagnes vont baisser. S'il y a un tremblement de terre, il est très possible qu'il y ait des affaissements de terrain dans certains endroits. Mais rappelez-vous, ce monsieur, David Baron, qui disait « je ne comprends pas, mais ça veut dire qu'il va se passer telle et telle chose ». Là, j'ai du mal à expliquer comment ça va se... Et puis Jérusalem va rester, et ça va être un peu le sommet du pays, le sommet du monde en quelque sorte. Rappelez-vous toutes les prophéties qu'on a vues sur Jérusalem, qu'il allait y avoir plein de places, il y avait cet homme qui mesurait pour dire que c'était immesurable. Ce sera plus grand que la Jérusalem d'aujourd'hui. On y habitera, il n'y aura plus de menace de destruction. Jérusalem sera en sécurité. Là aussi, on n'a pas le temps, mais on pourrait faire toute une étude sur toutes les attaques qui se sont produites sur Jérusalem au cours de l'histoire. Et Jérusalem sera enfin en sécurité. Aujourd'hui, on est en sécurité généralement à Jérusalem. Je crois qu'on est plus en sécurité que sur les Champs-Élysées ou sur la place Masséna. Il n'y a pas eu de violence encore, Dieu merci, mais Jérusalem sera enfin en sécurité et on y habitera. Et puis, voilà ce qui va se passer pour cette bataille d'Armageddon. Voici le fléau, verset 12, « Voici le fléau dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Et là, c'est un peu graphique. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils seront debout. Leurs yeux pourriront dans l'orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Si vous avez vu le film de Spielberg sur les aventuriers de l'âge perdu avec Harrison Ford, il y a un moment où justement on voit tous ces mauvais adversaires de l'arche, de Dieu donc, qui fondent devant nos yeux d'une façon très graphique. Alors certains pensent que c'est peut-être l'utilisation de bombes de radiation nucléaire qui provoquerait ça, quand on voit ce qui s'est passé à Hiroshima et qu'on voit les photos des blessés, on peut se rapprocher de ces descriptions, ou bien même des bombes à neutrons qui sont plus propres que les bombes nucléaires parce qu'il y a moins de pollution qui reste et qui affecte tout le monde. Ou simplement parce que Dieu a la puissance de causer ces maladies terribles, cette faim énorme. Ce jour-là, encore une fois, ce jour-là, l'Éternel provoquera une grande panique parmi eux. Chacun empoignera l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. Dans l'histoire de la Bible, on se rappelle des passages où des armées qui assiégeaient justement les Juifs se sont entretuées parce qu'ils ont cru qu'ils étaient attaqués. Et là, on a une grande peur qui fait gagner la bataille d'Armageddon. En plus de toutes ces conditions physiques qui font que les hommes pourrissent. Judas combattra aussi à Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations environnantes, l'or, l'argent et des habits en très grande quantité. On peut voir ça aussi dans l'Apocalypse 20, juste pour s'y tourner un peu, voir encore une fois tous ces passages s'interprètent les uns les autres. C'est pas seulement en disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme sens caché. On y reviendra plus tard. Je vais lire le verset 15. Un même fléau défrappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Ce fléau sera semblable à l'autre. Donc, il y a aussi la création, les animaux qui sont affectés. Et il est dit dans l'Apocalypse qu'il y aurait du sang dans cette vallée d'Armageddon, cette vallée de Megiddo, jusqu'aux morts, c'est-à-dire jusqu'aux rennes, à la hauteur des chevaux. C'est un passage et pas la référence, mais qui dit qu'il y aura du sang. Et encore une fois, on a dit que c'était une très grande plaine qui faisait des kilomètres carrés. Et quelqu'un s'est amusé à faire le calcul du montant de personnes. On a 5-6 litres de sang en moyenne, je crois, par personne. Combien de personnes il faudrait pour que, dans toute cette surface, le sang monte jusqu'à 1,50 m, à peu près la taille, là où se trouve la tête d'un cheval, et les morts qui sont dedans, les rennes qui sont attachées. Et en fait, il avait trouvé qu'il fallait bien plus de monde que les chiffres dont on parle. Et lui aussi, il a dit l'idée que c'est décrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas une idée figurative, c'est mathématique. Et donc là, il s'est rappelé qu'en fait, le principe d'Archimède, que ce qui est plongé dans un liquide le fait monter. Et donc il s'est dit que, en fait, si on prend en compte les nombres de cavaliers, dans l'Apocalypse, il est question des cavaliers, et tous les chevaux qui seraient morts, on pouvait arriver à voir le sang qui monte avec le nombre de personnes mortes et les animaux qui prennent de la place dans la plaine, à ce que le niveau soit atteint, jusqu'au moment des choses. Ça, c'est des petits détails, mais encore une fois, Prenez, Dieu peut dire ce qu'il veut dire de façon claire. Il n'a pas besoin de nous faire des illustrations, ou s'il nous dit que c'est une illustration. Alors c'est une illustration, quand souvent il prend des exemples dans les paraboles, il va illustrer une vérité spirituelle avec une réalité terrestre, mais de grâce, c'est la Bible qui doit nous inspirer, ce n'est pas nos façons d'éviter les problèmes qui nous sont posés. Et puis, on voit en fait maintenant, à partir du chapitre 16 jusqu'à la fin, c'est un renversement fantastique. C'est les nations qui viennent adorer Dieu à Jérusalem. On avait l'exemple du roi de Babylone, Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor, qui lui aussi avait été humilié par Dieu et qui avait fini par adorer le vrai Dieu. Et donc au lieu de venir combattre Jérusalem, les nations vont venir pour honorer Dieu et se rappeler sa fidélité envers Israël en célébrant la fête des tentes au chapitre 19. Lisons. Tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Jésus nous a envoyés évangéliser le monde entier. Matthieu 28, si nous dit d'aller ou dans le livre des Actes 2, 8, on peut s'y replacer, Actes 2, 8. J'ai dit deux, je voulais dire huit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qui inclut le comté de Nice. Mais là, ce seront les nations de tous les pays qui viendront adorer Dieu, l'honorer à Jérusalem. Dieu ne va pas forcer les hommes à l'adorer. Si une famille, verset 17, si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Dieu ne va pas forcer donc les gens à l'adorer pendant le millénium, mais il sera évident pour tous qu'il y a des avantages à le faire. Et notamment, la théologie de la soif dans ce pays du Moyen-Orient, l'eau est tellement rare que priver un pays d'eau, c'est le condamner à la mort lente. Et ils verront que s'ils ne viennent pas adorer, donc ils auront le choix, ils ne vont pas être bénis. Et c'est aujourd'hui encore la vérité, on dit que le soleil brille sur le bon comme sur le méchant. Les gens qui insultent Dieu, qui renient l'existence de Dieu, sont au bénéfice du soleil, de l'air, des émotions, des bonnes choses, de la nourriture, des boissons, de l'amour des autres. Toutes ces choses-là, Dieu leur donne aussi. Et il parle notamment de la famille d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils disaient que ce n'était pas la pluie qui les bénissait, c'était les crues du Nil. Mais bien sûr, les crues, elles ne se passent que s'il y a de la pluie. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, verset 18, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Pourquoi ce sera la punition d'Égypte, la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes? La question c'est pourquoi est-ce qu'on parle de la fête des tentes seulement? En fait, un auteur, Merrill Unger, un pasteur commentateur, Il explique que c'est la seule fête des tentes ou des tabernacles qui était célébrée pour, en mémoire de la provision de Dieu dans la traversée du désert. C'est la seule des sept grandes fêtes qui sont décrites dans le Lévitique 23 qui n'aura pas été accomplie quand le royaume sera établi. Il y avait la fête de Pâques. Ça avait été accompli avec la mort de Christ. Christ est notre Pâque, disait Paul. Les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, c'est accompli dans sa résurrection. La semaine des pains sans levain, c'est la vie de l'Église aujourd'hui, lorsque les croyants vivent dans la sainteté. La Pentecôte, qui était la fête des moissons, ça a été accompli dans le livre des Actes, acte 2. Et puis la fête des trompettes, c'est accompli lorsque Dieu rassemble tous les peuples, son peuple, des extrémités de la terre. Et puis le jour des expiations, ça a été accompli lorsque, on en a parlé, son peuple se repent, voit le Messie qu'ils ont crucifié. Mais la fête des tabernacles, la fête des tentes, elle n'avait pas encore été vraiment accomplie, réalisée. Et ça, c'est lorsqu'il y a le royaume de Dieu, que Dieu est là, Jésus-Christ est là, avec son peuple. Et c'est un rappel pour les nations païennes de la bonté de Dieu envers son peuple et qu'ils peuvent être au bénéfice de cet amour. Et puis, là, on est vraiment parti du retour d'exil, là, et toute cette histoire de ces prophéties de Zacharie. On arrive maintenant au royaume, au millénium où Jésus-Christ est avec son peuple. Les ennemis ont été subjugués. Parmi ces ennemis, certains ont reconnu que Jésus était vraiment Dieu. Ils sont venus à la foi. Et puis, il y a un contraste un peu abrupt. On va lire versets 20 et 21 pour terminer. Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, consacrés à l'Éternel. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées comme les coupes devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, le maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands, d'autres versions traduisent directement des Cananéens, des gens impurs, qui étaient souvent associés au commerce, et on se rappelle du commerce qui se passait dans le temple de Jérusalem, qui avait provoqué la colère de Jésus. Mais ces deux versets nous montrent qu'en fait, il y aura une sainteté parfaite qui s'instaurera sur la terre, au point qu'il n'y aura plus de différence entre le profane et le sacré. Est-ce que vous faites des différences dans votre vie entre le profane et le sacré ? Le dimanche, c'est sacré, surtout pendant l'heure du culte. Avant, après, on parle. Et puis le lundi, on repart comme si on ne connaissait pas Dieu. Non, il n'y aura pas de différence. Le commun devient sacré. Et il est fait référence sur la clochette des chevaux. Alors on dira peut-être qu'il y aura des stickers à l'arrière des voitures, mais pourquoi pas, il y aura peut-être tellement de destruction qu'on sera revenu aux chevaux. C'est ce que je vous encourage à croire. Consacré à l'Éternel. Et ça rappelle, dans l'Exode 28-36, il y avait une inscription sur la lame en or pur qui était sur la tiare du grand prêtre qui disait « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. La cité sera tellement sainte, consacrée à Dieu, que même les choses les plus terre à terre seront entièrement consacrées à Dieu. Il y aura des marmites dans la maison de l'Éternel, seront consacrées, ça on veut bien l'admettre, comme les coupes devant l'autel. Mais après, dans toutes les maisons, si vous avez une marmite, elle sera consacrée à l'Éternel. Il y aura encore des sacrifices, puisqu'il y aura du sang pour les sacrifices qui sera recueilli. Mais la différence, c'est que ce ne sera pas des sacrifices pour expier le péché, ce sera des sacrifices pour se souvenir du sang de l'agneau versé pour nos péchés. Ce sera un mémorial, toutes ces références à un temple. On n'aura plus besoin d'un temple, mais il y aura un temple où il y aura des sacrifices. Et ça, on en parle, il en est question dans Ézéchiel. Et tout sera saint, sacré. La cité sera tellement sainte que même les choses les plus terre à terre, je l'ai dit, seront consacrées complètement à Dieu. Dave Guzik, un pasteur commentateur qu'on va voir bientôt en Autriche avec quelques-uns, il y a une bonne et une mauvaise façon de supprimer la distinction entre le sacré et le profane, le commun. On peut tout rendre profane, c'est-à-dire que tout est consacré au péché et à soi-même, ou on peut tout rendre sacré, consacré à Dieu, à l'Éternel. Et Zacharie nous montre qu'en fait, la bonne façon, la méthode de Dieu, c'est de rendre tout ce qui était profane, tout ce qui était commun, saint. Il n'y a rien dans votre vie qui ne puisse et ne doive être consacré à Dieu. Et ce message-là, il est repris dans le Nouveau Testament, plusieurs endroits. De Pierre 3,11, on dit « Puisque tout notre monde doit être dissous », parle du feu qui dissout les choses, « combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Mais un verset que vous connaissez sans doute aussi, c'est 1 Corinthiens 10,31, et on terminera par ça. « Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen.